Donc l'idée de départ, c'était de parler de la fin de carrière de Dick, enfin la fin de carrière. La deuxième partie de sa carrière romanesque, pour évoquer le moment où, à mes yeux, il y a une crise du système dickien et une réinvention à la fois de son écriture et de ses thématiques. Donc ce qui est prévu, c'est que je... Ce qui était prévu, c'est que je parle... Je vais commencer à Ulbic jusqu'à Substance Mort, on est d'accord, et les événements de février-mars 1974, et Étienne enchaîne avec la trilogie de Binala. On va essayer de faire ça, mais en accéléré. Ma théorie que j'ai depuis peu et que j'essaye de développer, donc c'est... Work in progress, comme disaient les Espagnols, c'est qu'à partir du Bic, il se passe un dérèglement du système narratif de Dick. Alors, avant de parler de dérèglement, il faut peut-être expliquer ce système narratif. Je ne parle pas de thématique, là, je parle simplement d'écriture pure et dure. On va mettre un peu les mains dans le cambouis. Dick, pour ses romans de fiction, on sait qu'il travaillait... à un rythme fou, il y a un écrit, parfois il y arrivait d'en écrire, je crois, au moins 4 par an, il y a eu des années. Il avait donc une espèce de schéma narratif multifocal, l'expression est de Norman Spinrad, qui expliquait que Dick entrecroisait différentes réalités et ça se retrouvait dans son écriture, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs chapitres qui correspondait à plusieurs narrateurs, pas des narrateurs proprement dit, mais des personnages point de vue, on peut appeler des personnages qu'on suivait en focalisation interne. Il y avait par exemple la figure de l'artisan, la figure du patron, souvent le patron de cet artisan, de ce monsieur tout le monde. On retrouvait aussi souvent la figure de la divinité. Voilà. Vous pouvez prendre Docteur Blood Money, le maître du haut château, il n'y a pas de divinité, mais le vieux menu du centaure. On retrouve ces catégories dans les romans les plus archétypaux de Dick et qu'on retrouve souvent au début des années 60. Voilà. À partir du Dick, alors je vais parler en termes de date d'écriture et pas en termes d'acte de publication parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'on peut suivre comme ça exactement comment Dick travaillait. Donc, Ulbic, il est rédigé en 66, juste après Blade Runner, qui est déjà une petite rupture dans la façon de travailler, puisqu'il n'y a plus qu'un seul point de vue dans Blade Runner, avec, on ne suit que Descartes, en fait. Dans Ulbic, on retrouve la construction archétypale qu'on a dans les romans du début des années 60. Sauf que très vite, l'intrigue dérive, se désintègre, suite à une explosion au cours du récit. Et je vois, moi, dans cette explosion, l'explosion de la façon d'écrire de Dick lui-même. Voilà. À partir de ce moment-là, il me semble que dans sa fiction, plus rien n'est comme avant. Donc, Ulbic reste le chef-d'œuvre du dérèglement, de la dégradation, de l'entropie. Et il me semble que il marque, c'est le symptôme en fait de ce qui se passe dans l'écriture de Ulbic. Voilà. Dick joue une dernière fois avec son système narratif, mais comme un enfant en colère, il fout tout à terre. Et tous les jouets se retrouvent par terre, et maintenant il se dit « qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» Tout à l'heure, c'était Ariel qui parlait du guérisseur de cathédrale, qui est le roman que Dick a écrit après, février 68. Je signale que toutes les dates de rédaction, je les ai trouvées dans l'excellent ouvrage d'Étienne Barillet, « Le petit guide à travail ».
Tu es mon ami.
Dit dans son exégèse, dit du guérisseur de cathédrale qu'au moment de son écriture, j'ai touché le fond et en tant qu'écrivain, je me suis entièrement vidé et j'ai péri. J'ai raqué les fonds de tiroir et je suis mort sur le plan créatif et spirituel. Ça, il écrit en 81. C'est sans doute le guérisseur de cathédrale, le texte le plus triste, le plus mélancolique de Dick. C'est un des seuls qui finit vraiment mal, avec une espèce de chute assez horrible. La phrase de fin du guérisseur de cathédrale, dont le titre original est Galactic Pot Healer, c'est pas le guérisseur de cathédrale, c'est juste un guérisseur de poterie, voilà. C'est la figure de l'artisan, mais pas qui fait des chefs-d'œuvre, mais qui fait des petits objets. Il ne les fait pas d'ailleurs, il les répare simplement. La fin du guérisseur de cathédrale, on se retrouve avec ce personnage principal du réparateur de petites choses qui décide de créer enfin des poteries. Et donc il en fait une. Et la dernière phrase du livre, c'est « La poterie était ignoble ». Voilà où on est réduit. Il n'arrive même pas à recoller les morceaux de sa propre narration, de ses propres romans. Je passe sur Message de Frolic Sud, qui à mon intérêt, qui est un roman alimentaire où Dick refait une espèce de... pas une parodie, mais voilà, c'est très linéaire, je pense que c'est très, très facile et il ne s'est pas posé de questions là-dessus. En revanche, Au bout du labyrinthe est une tentative de retrouver ses jouets. C'est-à-dire, une fois qu'il les a mis par terre, il les reprend, il les remet sur la table et il essaye de refaire quelque chose, comme un Lego. Il y avait une maison à Lego, il a tout cassé, il essaie de la refaire. Et il arrive très bien, ça marche. Après, guérisseur de cathédrale, il dit « J'arrive pas à créer quelque chose de nouveau, à me renouveler, je vais refaire ce que je sais très faire. » Il reprend ses multifocalisations. Donc, toutes ces thématiques sont là, les divinités, les dans le livre, tout est là. Sauf qu'à la fin de l'écriture de ce roman, on voit qu'il n'y a plus de valeur ajoutée comme il pouvait y en avoir dans les bits, dans les vieux châteaux. On n'atteint pas le degré de ces chefs-d'œuvre. Voilà. Dit qu'il s'auto-parodie. Voilà. Puis vient, à partir de ce moment-là, donc après Au bout du labyrinthe et Message de Frolic suite, Couler mes larmes dit au policier. Et là, il y a une tentative de renouvellement et qui vient après un trip à la mescaline. Dick découvre l'amour, et autant alors l'amour, une forme d'amour qui passe le roman à essayer d'expliquer, autant le guérisseur de cathédrale est un roman sur la mort, la mélancolie, la tristesse, l'incapacité de créer, autant Couler mes larmes est un roman sur l'amour, mais sous toutes ses formes. Amour filial, il y a même sur l'inceste que certains personnages, plusieurs fois même, ça revient dans le guérisseur de cathédrale, il trouve que l'inceste est la forme la plus pure d'amour, une forme au-dessus des autres, c'est assez...
Ce qui est formidable avec Couler mes larmes des policiers, c'est que le livre que nous avons en France est unique au monde. Par un hasard, un aiguillage bizarre, le manuscrit qui est arrivé à la maison d'édition n'est pas le manuscrit qui a été publié aux États-Unis, mais une version précédente du roman. Ce qui fait que l'édition française a cela d'unique d'avoir près d'un chapitre inédit et beaucoup de paragraphes, de fins de phrases supplémentaires. Notamment tout le chapitre où il fait l'inventaire de toutes les différentes formes d'amour. Et je pense que la forme d'amour qui passe qu'il évoque de manière supérieure, c'est l'amour que le lecteur ressent pour l'auteur.
C'est ce que j'allais dire.
C'est mon ami.
Non, c'est dans le guérisseur de cathédrale où, en effet, il évoque l'inceste comme une forme... C'est plus sexuel, en fait, que... Et en effet, dans Couler mes larmes, c'est... Oui, l'amour. Alors, il faut expliquer que dans Couler mes larmes, le personnage principal, Jason Taverner, là, il n'y a plus que deux points de vue. Deux personnages antagonistes, Taverner et Felix Brookman, le policier qui le chasse. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Taverner parle de Dick dans le roman. Il demande à une de ses conquêtes si elle a lu à Rob Roustan, un livre de Dick. Et on a l'impression que Dick, voilà, recherche là aussi, lui, l'amour, l'approbation de ses lecteurs. Alors bon, si j'ai pas assez d'amour, bah, il suffit d'écrire un personnage qui aime ce que je fais, quoi. Voilà. Et c'est ce que Dick fait, quoi. Et en même temps qu'il fait ça, il inscrit aussi dans le texte le manque de renouvellement. Voilà. Que ses romans, auxquels lui il aboutit dans ses romans. Voilà. Couler mes larmes, c'est vraiment un livre sur le deuil, en fait. Dit qu'il fait son deuil d'une certaine forme d'intrigue. Il a essayé de recoller les morceaux, il n'y arrive pas. Et couler mes larmes, c'est pour ça qu'il est très beau aussi. C'est parce que Dick se rend compte bien qu'il n'y arrivera vraisemblablement plus. Et que quand il essaye, c'est simplement de l'auto-parodie. Donc là, il a plus ses repères, il ne sait plus quoi faire. Et c'est là qu'il y a un laps de temps assez long entre l'écriture de Couler mes larmes et celle de Substance mort. Il y a 3 ans de trou quand même, où vraiment, voilà, il sait plus comment il va faire. Hein. Et sa façon de faire, et c'est là qu'on arrive dans ce qu'il va faire tout, la fin de sa carrière, c'est qu'il va puiser, il a toujours puisé en lui ces thématiques, mais là il va puiser carrément dans son autobiographie et arriver à une sorte d'hybride. On n'est plus vraiment dans de la SF, enfin, on ne sait plus dans quoi on est, on s'en fiche dans Substance mort. Il va prendre des scènes de sa vie et les mettre en scène, voilà. Il va puiser vraiment, Scanner Darkly, Substance mort, c'est de l'autofiction Dickienne, quoi, vraiment. C'est, à mes yeux, c'est sans doute le roman le plus autobiographique, même peut-être plus que les romans de la trilogie Dick, qui sont des études plus sur ses délires et sur ce qu'il pense, ce qui le fait réfléchir, mais pas sur ce qu'il a vécu. C'est pour ça que Scanner Darkly, je trouve, est plus autobiographique. Et il ouvre aussi une troisième voie dans laquelle Dick va s'engouffrer, qui est celle de cette espèce d'hybride, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui n'est plus vraiment de la SF, qui n'est plus vraiment du fantastique, qui n'est plus vraiment du mainstream, qui va donner Radio Libre Lumens, Siva, etc. Et tout ça est teinté par les événements de février-mars 1974, dont Étienne va nous parler.
Très, très très rapidement, parce que c'est extraordinairement complexe. Un jour, Philippe K. Dick attend une livraison de médicaments parce qu'on a enlevé une grande sagesse. La femme qui apporte le sachet à son domicile porte un collier avec un poisson stylisé. Et au moment où il voit ça, il identifie cela comme étant une anamnèse, c'est-à-dire le retour de la chose oubliée. Et il se souvient. Il se souvient de tout. Maintenant, il faut admettre simplement que Dick a vécu ça. On doit, à mon sens, on ne doit pas se poser la question, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il était malade, est-ce qu'il a fait une crise d'épilepsie du lobe temporal. Voilà, on ne saura jamais. Ce qui est important, c'est qu'il a vécu cela d'une manière authentique, que pour lui, l'expérience a été authentique. Blaise Pascal a porté jusqu'à sa mort, cousu dans la doublure de sa veste, une petite feuille sur laquelle il avait noté ses sentiments suite à une nuit de feu, une nuit d'intense méditation mystique. Bon. Est-ce que quelqu'un ira dire que Blaise Pascal était fou? Pascal était fou. Non. Donc l'idée, c'est que il va vivre quelque chose et il va passer toute sa vie, enfin les dernières années de sa vie, à essayer de l'expliquer. Parce qu'il va avoir des hallucinations, il va avoir des hallucinations visuelles, auditives. Il va entendre des menaces venant d'appareils électriques éteints. Il va avoir des révélations concernant une malformation de son fils qui va être confirmée par le médecin qui va l'opérer en urgence. Il va entendre des voix qui vont lui parler, lui donner des conseils, lui transmettre ce qu'il appelle de l'information. Ça, c'est comme ça qu'il essaye, lui, de le comprendre. Et à la fin de sa vie, il fera ce qu'on appelle une théophasie, c'est-à-dire qu'il aura une rencontre directe avec Dieu. Bon, personnellement, j'attends toujours. Mais, encore une fois, je ne pose pas la question de est-ce qu'il est fou. Déjà, j'ai du mal à me dire qu'un fou puisse produire quelque chose d'aussi structuré qu'un roman. Je pense qu'il peut écrire des centaines de pages, mais produire une fiction avec ce que cela suppose de travail, voilà, j'ai du mal à l'accepter. Par contre, que Dick lui-même se voyait tantôt comme un illuminé, tantôt comme un mystique, tantôt comme un fou, ça transparaît partout dans sa correspondance, dans les échecs. Il se pose la question, et à la limite, tous les regards que nous pouvons porter sur lui, il s'était déjà analysé de cette façon, il avait déjà envisagé la possibilité. Mais ce qu'il a voulu faire, c'est témoigner. Le dire. Comme il le dit dans sa conférence de Metz, il imagine le gros titre d'un journal après sa conférence, un écrivain dit avoir rencontré Dieu, mais il est incapable de dire ce qu'il a vu. Et il était exactement dans cette situation-là. Et il passait ses nuits à écrire, mais pas de la fiction, il écrivait l'exégèse. Les feuilles s'amoncelaient, mais il n'était plus capable d'écrire de la fiction. En 76, un éditeur lui fournit une confortable avance. Pour l'époque, c'était une somme assez appréciable. Il avait 12 000 $ d'avance pour son prochain roman, qui devait s'appeler Valley System A. Pendant des années, une grosse correspondance avec son éditeur, lettre après lettre, Dick lui présente des synopsis, non, finalement, je vais faire ça. Mais il parle du livre dans ses lettres, mais il n'écrit pas, parce qu'il passe son temps à faire l'exégèse. Et bon, bah, finalement, il termine un bon an, mal an, un peu de briques et de broc, Radio Libre à deux buts, qui ne sera publié que de manière posthume. Et c'est pas convaincant. Quand on le lit aujourd'hui, on voit qu'il y a des germes d'idées qui viendront dans les romans suivants, mais que le livre n'est pas totalement, parfaitement maîtrisé, totalement, parfaitement abouti. Radio Libre Albemuth introduit néanmoins une première idée extraordinairement forte, c'est que Dick apparaît comme personnage. Il y a donc Dick, personnage rationnel, et tous les éléments mystiques sont projetés sur le personnage de Nicolas Brady. C'est lui qui est chargé d'une mission par un satellite extraterrestre qui vient lui communiquer des informations. Mais nous sommes dans une Amérique chronique. Nous sommes dans une Amérique nixonienne. Je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas c'est ça. C'est une espèce de cauchemar totalitariste. En 78, Dick va écrire sa conférence à Metz, il va écrire quelques essais, il touche toujours pas à la fiction. Il y a quelques petites nouvelles, des petites formes comme ça. Je crois que c'est à cette époque-là qu'il en publie une dans Playboy, par exemple. Ce qui veut, rappelez-vous, à l'époque, je vois vous sourire narquois, de la qualité littéraire des textes que publiait Playboy à cette époque-là.
Bowie, John Lennon ont fait des super interviews.
Oui. Donc là, vraiment, c'était une grosse reconnaissance du point de vue de purement éditorial. Et surtout, Dick, il a un nouvel agent, Russell Gallen, qui est un fou furieux, qui adore Dick, et qui se démène, et qui lui trouve des contrats pour le faire republier, pour trouver de nouveaux marchés, de nouvelles traductions. Et le travail de Russell relance un petit peu la machine. Parce que Dick, il voit que ses livres intéressent les gens. C'est à cette époque-là que les traductions françaises se multiplient. Il décide d'abandonner Albemuth et de basculer totalement sur un autre livre. On ne sait pas à quel moment il décide d'abandonner son manuscrit et de partir sur un autre roman. Il l'écrit en 15 jours. Vous allez me dire, 15 jours pour écrire un roman, c'est... Déjà pour Dick, c'est assez long. Mais surtout, c'est 15 jours qui sont une somme de toutes ces réflexions, de toutes ces analyses, qui ont maturé, qui l'ont travaillé pendant toutes les années précédentes. Comme si toutes les années de silence, tout d'un coup, la digue se fissurait. Et il écrivait Siva avec ce dédoublement de l'auteur entre Phil Dick, rationnel, sérieux, et Horslover Fat, qui lui est un barjot de première et qui passe son temps à élaborer des hypothèses les plus farfelues pour comprendre comment est-ce qu'il se fait qu'il a eu cette révélation mystique il y a quelques années. En plus, il passe son temps dans les asiles psychiatriques et à draguer des femmes sans aucun espoir. Nous sommes ici, tu parlais d'autofiction, et là je ne te suis pas parce que justement, le fait qu'il divise...
Non, mais c'était pour scanner en marque.
Donc le fait qu'il divise le récit biographique en deux annule le projet biographique.
Parce oui, que c'est pour ça que je te disais que Scalarachi est bien plus de l'autobio, à mon sens, que la trilogie.
Parce que Horsover Fat, hein, rappelez-vous, Horsover, ça remonte à l'étymologie grecque, Philippos, Philippe, et Fat, qui signifie gros, et Dick. On a l'auteur qui nous donne l'impression de se diviser en deux personnages. Sauf que, au chapitre 9 du roman, je crois que c'est au chapitre 9, Horslover Fat disparaît. Et il ne reste plus que Phil Dick. C'est-à-dire qu'un personnage qui était présent, qui dialoguait avec les autres personnages, disparaît totalement, il est réintégré. Et il revient ensuite. En un mot, c'est comme si la fêlure pouvait se résorber, pouvait être contrôlée par rapport à son discours. Siva est un roman extraordinairement bavard.
Ils le sont tous.
Oui. Mais là, quand même, enfin, on a des personnages qui, pendant des pages et des pages, vont nous parler de mystiques chrétiens du 1er siècle. Et ils ont tous des connaissances parfaitement érudites. Ils maîtrisent leur sujet, ce sont des...
Ça nous arrive souvent de
oui.
parler de ça.
Oui, bien sûr. En un mot, Siva est fascinant par la construction qu'il propose, par les pièges qu'il nous tend en nous donnant l'impression que Dick se livre totalement, alors que je pense qu'au contraire, c'est une livraison totalement maîtrisée. Et pour donner simplement mon point de vue, il n'est pas totalement abouti. D'ailleurs, Dick, pour le roman suivant, L'Invasion divine, fait un mouvement de bascule total. C'est un roman de science-fiction. Dans Siva, c'est un roman réaliste, si ce n'est qu'il y a Dieu qui intervient. Enfin, je dis Dieu, mais bon, on peut l'appeler de quantité de nombres. Ouais. Ça, c'est pas gênant. Dans L'Invasion divine, tout le programme théorique du roman précédent est intégré. Nous sommes dans un futur. Et Dieu décide cette fois d'opérer sa nouvelle révélation et de revenir sur Terre par le biais d'un petit enfant qui s'appelle Emmanuel, qui va revenir sur Terre pour rétablir le bien en luttant contre Bélial, les forces du mal. En un mot, tout programme d'annonce mystique qui était un petit peu complexe dans le roman précédent est totalement intégré ici dans un roman de science-fiction qui avance très rapidement avec son quota de scènes d'action, de scènes amusantes et de scènes particulièrement surréalistes. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est tout le travail en profondeur. Donc là, il est temps de parler de temps orthogonal. Une des grandes idées de Philip K. Dick dans sa révélation, c'est que le temps n'existe pas. Et qu'au contraire, nous sommes dans un éternel présent, avec Dieu, Siva, qui a comme capacité de reprogrammer en permanence ce présent pour nous faire aller d'un état qui serait, si vous voulez, de l'enfer, pour nous faire aller jusqu'au paradis. Et chaque fois qu'il reprogramme, eh bien, la réalité change, créant de facto des réalités parallèles. dont on peut avoir des fois la préscience, comme le rapporte plusieurs fois Philippe Cadic, c'est le fait d'entrer dans sa salle de bain et de chercher la petite ficelle qui allume la lumière et de la chercher authentiquement, alors que dans sa salle de bain, depuis toujours, c'était un interrupteur qui était à la gauche de la porte. Donc tous les phénomènes de déjà-vu, de prémonition, etc. À tel point que Dick va même penser que tous les Mélard, dit le policier, c'est ce qu'il dit dans la conférence de Metz, n'est pas un roman de fiction. C'est un roman qui raconte un présent antérieur. Et je trouve que c'est une des idées les plus folles de la conférence. C'est pas tellement qu'ils nous disent « j'ai vu Dieu », mais c'est qu'ils nous disent « mon livre raconte... » la réalité. Enfin, fermons la parenthèse. Donc, dans l'invasion divine, le temps orthogonal se manifeste dans toutes les dernières pages, avec Dieu qui va modifier, enfin Emmanuel, qui va modifier la réalité progressivement, et on a notre personnage principal qui va passer d'une réalité à l'autre. Ce qui fait qu'à la fin, on ne sait plus, mais il est impossible de le déterminer, à quel degré nous sommes dans le réel. Est-ce que... nous sommes dans une folie, dans un pur fantasme du personnage, parce que le réel ultime correspond à ses rêves intimes. Donc voilà, le roman fonctionne comme étant une application de toute une série de théories. Encore une fois, à titre personnel, je ne suis pas totalement convaincu. Parce que tout ce qui me plaisait bien dans l'autre, les discussions, les controverses, ça disparaît totalement dans le une fois que Dieu est présent et qu'il est en train de lutter pour reprendre le pouvoir. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez raconter d'autre ? Si ce n'est que comme c'est un roman de Philippe Cadic, le problème c'est que Dieu est devenu amnésique. Donc c'est un Dieu brisé qui doit d'abord se souvenir de son propre nom pour pouvoir rétablir son pouvoir. C'est pour ça que le dernier roman publié de Philippe Cadic est, à mes yeux, totalement bouleversant, parce qu'après deux formes qui ne sont pas totalement abouties, il parvient à produire une note parfaite. Et une note parfaite qui sonne parfaitement de la première à la dernière page. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a la création de ce personnage d'Angel Archer, qui est totalement atypique dans l'œuvre de Dick, et qui montre que brutalement il est capable de se réinventer et de réinventer toutes ses propres ficelles narratives, tous ses trucs, tous ses fétiches. De plus, Philippe Cadic, pour écrire ce livre, a refusé le plus gros contrat de sa carrière. Rappelez-vous, Blade Runner est sorti en 1982. Tout le monde était persuadé que ça allait être le nouveau Star Wars. Ça a été un bide monstrueux. Cet été-là, tout le monde est allé voir E.T. Mais bon, à l'époque, personne ne le savait. Donc, on avait proposé à Dick d'écrire la novélisation du roman, du film, avec une seule condition, on fait disparaître le précédent livre et il n'existera plus que la novélisation. Son agent estimait que les gains potentiels après la sortie du film pouvaient s'élever à 400 000 dollars. Je ne sais pas, mais on comprend qu'il ait pu hésiter. Et il a refusé. Il a refusé pour accepter, au contraire, un contrat nettement moindre et écrire la transmigration de Timothy Archer. Donc là, on a vraiment un roman qui est d'une intégrité absolue. Donc, il y a la création du personnage d'Angel Archer. Il y a ce personnage qui, le jour de la mort de John Lennon, se rend pour assister à une conférence organisée par une espèce de gourou New Age. Elle y va, elle s'ennuie, elle n'a pas le moral, John Lennon est mort, et elle va rêvasser. Et tout le roman va être cette rêverie. Et cette rêverie va être l'histoire de cette femme à travers le personnage de Timothy Archer, basé sur l'évêque Pike, donc qui avait réellement existé, qui avait été ami avec Philippe Cadic et qui avait beaucoup travaillé. travaillé justement sur les premiers chrétiens et cette possibilité que dans les écrits de la Mère Morte, on trouve des révélations concernant ce qu'était réellement Dieu. Sauf que dans le livre, effectivement, on va trouver des manuscrits, et ce que l'on va découvrir, c'est que ces premiers chrétiens, ils mangeaient des champignons hallucinogènes. Ce qui fait que c'était une bande de beatniks totalement partis, et effectivement, on pouvait avoir des messages divins dans ce cas-là. Ce qui fait qu'il y a tout un retournement. On n'est plus du tout dans le dogme, on n'est plus du tout dans l'affirmation ou la volonté un peu lourde de quelqu'un qui veut nous expliquer ce qu'il a vécu, mais on est dans l'espace total d'un doute ontologique permanent. Et cela fonctionne admirablement. C'est ce dernier volume qui permet à la trilogie de tenir totalement sur ses pieds, parce que Dick avait voulu une trilogie. Comme il avait pu l'écrire à sa fille, entre parenthèses, ne faites jamais confiance à Philip K. Dick quand vous lisez une interview de lui. Il est tellement séducteur, manipulateur, il veut tellement mettre son interlocuteur dans sa poche qu'il va généralement exagérer. Si on lit ses interviews à Metz, il va nous parler de littérature française et dire que Balzac et Stendhal sont ses influences principales. Voilà, alors pas du tout mytho, hein, mais totalement séducteur. Mais dans sa correspondance, il y a les lettres à sa fille, enfin à sa fille aînée. Et là, voilà, il ne cherche pas à la séduire, il lui explique posément. Et ce qu'il lui explique, c'est que ses derniers livres sont entièrement construits autour de la figure du Christ. Avec dans l'idée que dans le premier roman, c'est l'idée que le Christ puisse apparaître, dans le deuxième, que le Christ est apparu, et dans le dernier, et là, l'idée est fascinante, le Christ est partout. C'est-à-dire que chaque personnage du livre incarnerait une certaine idée du Christ. Et là, on n'est plus du tout dans la biographie. On n'est plus du tout dans la souffrance, on n'est plus du tout dans la personne qui veut à toute force nous communiquer un message ou nous raconter quelque chose d'autre que de purement romanesque. À tel point que le roman sur lequel Philip K. Dick, ben, comme toujours, il n'y avait aucune note, dans ses dernières interviews, il raconte des choses. Mais si vous lisez la conférence de Metz, il raconte longuement Siva, mais qui n'a que peu de rapport avec le roman qu'il a fini par écrire. Son dernier roman, The Hole in the Light, comme un hibou en plein jour, allait laisser tomber tout l'aspect religieux. Et il se concentrait totalement sur la musique et la peinture, en imaginant une société dont les sens et la communication passeraient intégralement par la musique, par le son. Et ce qui fait qu'ils arrivent sur notre terre et qu'ils découvrent l'art humain, qui pour eux signifie quelque chose. Dit qu'avec la trilogie divine, à mon sens, clôturait d'une certaine façon son parcours mystique. Non pas qu'il avait un terme, non pas que ça n'était un terme à tout cela. Je vous rappelle, Dieu lui est apparu, et grosso modo, Dieu lui a dit, parce qu'il l'a raconté dans ses lettres, hein, il lui a dit: ton exégèse, ça sert pas à grand chose, c'est pas en écrivant comme ça que tu vas réussir à m'expliquer. Alors m'expliquer, M majuscule, hein, c'est Dieu qui parle. Et bon, voilà, sur la fin de sa vie, Dick se détachait de ça et prenait vraiment, littéralement, un nouveau départ. On peut se demander ce qu'auraient été ses livres suivants, parce qu'il avait largué la science-fiction de ses débuts, il avait largué le mélange entre science-fiction et romans réalistes qui constituait le dernier tiers de sa carrière. et il ouvrait véritablement des portes différentes. Par exemple, Philippe K. Dick n'évoque quasiment pas Thomas Pynchon et n'aurait pas lu Thomas Pynchon. Bon, l'inverse est manifestement... Enfin, je pense que Thomas Pynchon est un lecteur assidu de Philippe K. Dick.
Thomas Pynchon évoque peu de choses en général.
Oui. Mais je pense qu'il exclurait Thomas Pynchon sans Philippe K. Dick. Tu m'as fait perdre le fil. L'idée étant qu'il augurait quelque chose de potentiellement nouveau, mais qui ne reste malheureusement voilà, qu'un potentiel. Dans notre réalité, jusqu'à ce que le programmateur décide de changer cette erreur manifeste qui a été la mort de Philippe K. Dick, nous n'avons pas eu la suite de son œuvre. J'ose espérer que dans des mondes parallèles, ils ont non seulement des romans supplémentaires de Philippe K. Dick, mais aussi de meilleurs films à la fin de son œuvre.
Et il est présent à cette conférence.
Et qu'il était présent à l'heure à cette conférence.
Avec les clés, c'est lui qui avait amené les clés.
Voilà. Est-ce que vous voudrez parler un petit peu pour ceux qui ont lu ces textes-là, parce que là on a fait un tableau, mais à une vitesse terrible. Ou si vous voulez qu'on approfondisse certaines questions, parce que quand même tu es allé vite, hein, toi.
Il fallait aller vite, je suis allé vite.
Moi je trouve super intéressante l'idée de l'explosion. C'est-à-dire que c'est un work in progress, il faut continuer, hein, parce que effectivement ça donne envie d'en savoir plus. C'est-à-dire, tu as abordé, mais après comme ça, l'idée que ça concernait le style aussi. Le style du roman, un petit peu, même carrément l'écriture, j'ai que comprendre ça, je sais pas.
C'est plutôt dans la narration.
Que dans la narration.
Avec le style, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'évolutions. Il y en a eu avant, je pense, des évolutions stylistiques vraiment. Dans le Maître du Château, c'est manifeste. C'est plutôt dans la façon de raconter. Et ouais, cette explosion-là, alors on sait dans Ubik, Ubik il démarre comme un vrai roman de SF. Ouais, de guerre, ça peut être rigolo, il y a des mutants, il y a une mission, il y a des trucs qui... Il y a une explosion et tout le monde meurt. Et à partir de là, ça devient un chef-d'œuvre. Mais en même temps, il explose tous les codes qu'il utilisait avant. Parce que mine de rien, avant, ces intrigues restaient assez linéaires. Et là, il commence à... Alors, soit on peut dire il explore d'autres voies, soit il est arrivé au bout et il se heurte à un mur. Je trouvais rigolo que l'idée de cette explosion dans la narration du Bic, elle soit aussi l'explosion du système de sa narration en son entier. Quoi. Et le coup des différents protagonistes, là, l'artisan, qui sont introduits un par chapitre et tout ça, c'est manifeste parce qu'après on ne le retrouve plus vraiment que dans Au bout du labyrinthe c'est un monstre de Frankenstein. Quoi. Au bout du labyrinthe, c'est le best-of de Philippe K. Dick. Je reprends mes meilleurs succès, et voilà quoi. C'est vraiment ça. Donc oui, je vais continuer à bosser.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui avait choisi très jeune de vivre de son écriture. Et que pour vivre de son écriture, il fallait vendre. Et que pour vendre, il fallait produire. Produire énormément. Ce qui a expliqué que Balzac buvait des litres de café pour payer son train de vie avec ses romans. Philippe K. Dick, lui, c'était les amphétamines qui lui permettaient de rester éveillé pendant des nuits et des jours, afin de pouvoir faire tomber du texte et gagner 15 dollars parce qu'il avait vendu une nouvelle, 100 dollars parce qu'il avait vendu un roman. Pendant des années, il s'est littéralement tué au travail. Mais ce qui fait que cela a eu son coût, ça a eu son coût sur sa santé, ça a eu son coût sur son psychisme, ça a eu son coût sur sa vie personnelle. Et on peut comprendre qu'il y a eu ces périodes-là de blocage total, parce que c'était les moments où dans sa vie, tout s'effondrait littéralement. Que le fisc lui demandait de l'argent, que sa quatrième ou sa cinquième femme le quittait, que sa petite copine du moment le quittait, que ça allait pas et qu'il n'avait même plus l'écriture pour l'aider à tenir debout. Mais il y avait l'exégèse qu'il attendait, qu'il reprenait, qu'il pouvait reprendre et reprendre. On vous a épuisé.
J'adjuge alors, hein, si personne ne pose de questions. On va arrêter là. Merci à vous d'être venus et d'avoir patienté.